It's here today and gone tomorrow.
Bonjour, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter qui vous emmène.
Cette semaine, entre la Seine-Saint-Denis et les lycées des beaux quartiers parisiens à la recherche des jeunes entrepreneurs de demain, et puis dans les faubourgs de Tunis sous le rap et le langage d'une nouvelle génération, et toujours, mixez-le vous-même, vos Radio It Yourself dans les tuyaux.
Comme un bruit qui court, en direct du studio 611 de la Maison de la Radio, l'émission qui bidouille le son et chatouille le sens.
Le rap en Tunisie, c'est... Là, c'est la musique populaire. Tout le monde écoute du rap. Tout le monde.
Dans l'école où je suis, il y a beaucoup de personnes de la même origine que moi. La plupart africains.
Et d'origine sociale modeste.
Ouais, modeste. Ouais, très très modeste. D'accord.
Alors, votre attention, s'il vous plaît. Le premier que je vois retirer complètement le casque, on arrête toute la visite.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Il faut que tout bouge pour que rien ne bouge. En 64, le livre de Pierre Bourdieu, Les Héritiers, dénonçait une école qui, loin d'ouvrir aux fils d'ouvriers les portes de la réussite sociale, fonctionnait comme une machine à reproduire les inégalités sociales. Un demi-siècle plus tard, même constat, si ce n'est pire, la porte de l'ascenseur social de l'école républicaine est en panne. Les enquêtes sur les chances d'accéder aux grandes écoles, quand on est né pauvre, sont moitié moindres qu'il y a 50 ans. La reproduction des élites continue. En Tunisie, 4 ans après l'immolation du jeune Mohamed Bouazizi, le 17 décembre 2010, point de départ de la révolution tunisienne, qui a mis fin à la dictature de Ben Ali et qui revendiquait plus de justice sociale, Benaliste comme islamiste frappe aujourd'hui aux portes du pouvoir pour le deuxième tour des élections présidentielles qui se dérouleront la semaine prochaine. Alors, si nous voulons que ça bouge, qu'est-ce qu'il faut changer ?
Antoine Chao. Kélor Robimers. Guy Wangdi. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Rap de Casbah à Tunis. Antoine vous le disait, ce sera le dernier tour des élections la semaine prochaine. Avec dorénavant une nouvelle constitution, un nouveau parlement et un président, que ce soit Essebsi ou Marzouki, les Tunisiens vont avoir un pouvoir démocratiquement élu et beaucoup de pain sur la planche. Parce que pendant ce temps-là, les urgences s'accumulent. Urgence économique et sociale d'abord, avec un chômage et des prix qui flambent dans les faubourgs et les régions reculées, mais aussi une urgence politique de construire un pays post-révolutionnaire. C'est-à-dire avec la même police qui jadis oppressait, des comités de la révolution aujourd'hui noyautés par les mauvais garçons, et enfin désamorcer la cocotte minute des mouvements djihadistes qui prospèrent dans la région. Est-ce que c'est un cours de géopolitique ? Non, parce que dans les banlieues de beaucoup des villes, les sans-culottes tunisiens, eux, sont en première loge de tous les combats. Rap Tounsi. Jeunes, inquiets, remontés à bloc, c'est par le rap qu'ils ont appris à s'exprimer, et c'est par le rap qu'ils chroniquent leur monde en mouvement. Et c'est avec eux qu'on va aller se balader. Occasion aussi de redécouvrir un rap sans le bling-bling ni le showbiz français, où tout est fait avec des petits moyens, sans label ni grande maison de disques, puisque de toute façon, les disques sont trop chers pour se vendre. Bref, avec des gens pour qui le rap est encore un mode d'expression, où les chanteurs vont encore en prison pour des paroles, pour des idées.
Comme un bruit qui court, France interne, c'est ça.
Moi, c'est Madou MC du KBB Accro.
Oui, Star, je fais partie aussi de la même team que Madou, KBBA.
C'est le KBB Accro.
KBB Accro.
Ouais. KBBA, c'est Kabaré. Tu vois, c'est franc.
Ouais.
Au 9-3, ben Kabaré oui. En Tunisie, c'est comme ça.
C'est vrai.
Ouais.
C'est le 9-3 de Tunis.
Le 9-3 du Tunis, ouais. C'est ça. Et enfin, nous, on dit parlons peu, parlons KBBA. Et frappez fort. KBBA.
KBBA. On est dans quel quartier de Tunis, là ?
On est au centre-ville. Et ici, il y a le ministère de l'Intérieur.
C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a plein de policiers avec des gilets pare-balles, il y a des barrières, il y a des fusils là.
Les fusils, ils sont pas chargés.
Ils sont pas chargés.
Ouais, ils ont des jeux en fait.
C'est quand même un signe de changement du temps, quand même, le studio de rappeur qui est juste derrière le ministère de l'Intérieur.
Ouais. S'il y a un morceau qui a sorti de ce studio, qui insulte les flics, et ils connaissent le lieu...
Et on parle pas fort parce qu'on passe devant les flics en ce moment-là.
Je suis connu avec eux. Ils connaissent tous. On avait un problème avec eux, un grand, grand problème. C'était le Boulis et Club et tout. Le morceau qui insulte les
flics. La Boulis et Club, ça veut dire les flics sont des chiens.
C'est le morceau de Wedelkins. Et moi, j'ai eu 2 ans de prison ferme avec lui. Donc, j'ai eu un peu connu avec eux.
Décembre 2013.
21 mois de prison pour une chanson, c'est la peine infligée à 2 rappeurs tunisiens. Leur avocat dénonce une nouvelle atteinte à la liberté d'expression en Tunisie.
La Tunisie, avec encore une condamnation sévère, cette fois il s'agit d'un rappeur, 2 ans de prison ferme pour avoir osé critiquer la police.
Et il est sorti de prison en fin d'après-midi.
Mais on sent quand même, là c'est la période des élections, il y a beaucoup de gens qui râlent, qui se plaignent, mais quand même on sent que l'atmosphère est pas pareille dans Tunis.
Ouais, avant on parlait tous football, voilà. Maintenant on parlait tous politique. Voilà. Tu vois, avant il y a les petits filles, les petits garçons chez moi, ils jouaient au foot. Maintenant tu sais qu'est-ce qu'ils jouent? Les élections.
Non.
Je te jure. Voilà. Toi tu vas être le président du quartier et toi tu vas être le... Ouais, c'est un jeu. C'est devenu un jeu en Tunisie. Les élections. J'observe et ça m'aide à écrire, quoi.
Alors on accompagne Wedde au studio pour un petit enregistrement. Ça ressemble pas à grand chose, de l'extérieur on dirait vraiment pas que c'est un studio. Une petite pièce, un petit salon, quelques gars qui sont là que saluent. Une porte qui donne sur un presque placard. Et à l'intérieur, le mini-studio, okay. Mais low-tech, hein. Une petite cabine avec un micro qui est là. Un ordinateur de bureau avec un logiciel de montage. C'est rustique, mais c'est comme ça qu'on fait du rap.
Ok,
ici, à Tunis.
Rien de rien, frère. Câble, PSO, Jabrar. Je fais pas partie des gens qui subissent les règles. J'ai mes tounes, frère, pour voler qu'avec les zèques. Courbe ou bled, bharri, farra, y'a plus place pour les faire. Hat ma y'a bledi, mais bledi me déteste. Khater mardi, t'es chute la plus lady.
Allez, bé, c'est bien.
On quitte le studio pour aller discuter un peu. Toujours avec Mad MC et Wistar, rappeur tunisien. France Inter.
Merci beaucoup.
Rap de Casbah.
Moi, je suis un peu à droite. Je prends un café ici.
Voilà, on arrive sur l'avenue Bourguiba, les Champs-Élysées de Tunis. Là, c'est les terrasses bondées. Le soir tombe sur Tunis et c'est l'heure où toute la jeunesse se retrouve. C'est arrivé quand le rap ici?
94, 95, avec 2 ou 3 groupes.
Et c'était l'école du rap français comme IAM, comme NTM.
On a commencé ensemble à faire du rap.
Donc sous Ben Ali?
Ouais, sûrement sous Ben Ali.
On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas s'exprimer par rapport à ce qui se passe, tu vois, dans la société.
Voilà, éviter de réfléchir, c'est ça?
Éviter de réfléchir. Mais avant, il y avait des gens qui réfléchissent. Mais toi, tu réfléchis d'un côté et moi, je réfléchis d'un autre côté. On n'est pas ensemble, tu vois.
Chacun dans son coin.
Ouais, tu ne peux pas parler direct, tu vois.
Oui, c'était à demi-mot, c'était en sous-entendu.
Ouais, c'est ça. Parce que comme je t'ai dit, avant, on met un morceau sur Facebook et voilà, dans une journée, tu ne le trouves plus, tu vois.
Du coup, quand tu fais une chanson rap, tu risques la prison. Et voilà, c'était la répression totale.
Et qu'est-ce qui a changé depuis le renversement de Ben Ali, voilà, bientôt 4 ans?
Juste après la révolution, c'est toutes les lumières, c'était sur le rap. Tous les gens parlaient du rap. On faisait des concerts partout, on disait ce qu'on pensait sur scène, devant tout le monde, on passait à la télé.
Avant, quand il y a des rappeurs qui chantent pour Ben Ali ou je sais pas qui.
Il y en avait qui chantaient pour Ben Ali ?
Il y a des rappeurs très connus qui font du rap un peu droite, quoi. Du rap du droite.
Du rap benaliste.
Et ben après la révolution, tout le rap ça est devenu côté gauche.
Tout le rap est devenu révolutionnaire.
Ouais, c'est ça.
Ce que vous dites tous les deux, c'est qu'en fait maintenant c'est trop facile de faire du rap politique.
Ouais, c'est facile. Il y a tous les rappeurs qui font de la politique. Parce que c'est devenu facile, quoi. Parce qu'avant, il y avait Ben Ali et 4 voleurs. Maintenant, il y a 10 000 voleurs. Tu connais même pas les voleurs, tu vois. Avant, on les connaît quand même. Et on a fait une petite révolution et on attend l'évolution pour arriver à la grande révolution. L'avenir, c'est à nous. C'est nous. Même avec ces déceptions et avec tous ces problèmes et avec tout ça, nous, on est prêts pour construire cet avenir-là. Et on peut arriver, quoi. Et on va arriver. Inch'Allah. Et c'est nous l'avenir, les jeunes.
Le rap en Tunisie, là c'est la musique populaire, tout le monde écoute du rap. Tout le monde.
Dans un morceau de rap, généralement on vient pas te dire il faut respecter les droits de l'homme. On te dit nique la police, voilà, c'est ça, parce que c'est la police qui est en train d'enfreindre les droits de l'homme, c'est pas un communiqué de Human Rights Watch, quoi. Voilà, c'est du rap et on vient dire nique la police qui nous tabasse tous les jours dans la rue. C'est le même rap qui te dit voilà, je n'ai confiance en aucun parti politique. Il te dit pas les abstentions, en fait, c'est dû à une rupture historique et structurelle entre. Non, il te dit les partis politiques, ils veulent nous enculer. Donc c'est comme ça, ils expriment leurs idées d'une manière très crue. Après, il y a des niveaux.
ويلكم كوم انت بدي ريبوبليكا هذي رابع كور فروم كابي بي ا بنتك ريز الرابي معجبكش صعبي يا مبو سمحو ما مكابو ديكاي ما لايك بونج كنترول ما صول معروف لو بون كنترول اوف جمعي فوري راسي حتى نجيب الفوز فنس هنش عفصان بيزي ما تنسي ديب كيما ميسي معروف راجل قومي من ابو بيسي شغاب شغاب دمون دميو سي توسي بس تحتيك مع كولو يا سيب لي الكافي لولو غاب سمع في راس ملك كاسكو ميكو فاسي سجلو غرافي سيب على الفيسبوك وبدل اللوك بالك شي تحت فلك جيني راح تضرب في السوق بس يذوب كيما الشمعة غبت الدمعة ومن غب ليش بلين بلين كفر اللمعة شايك بس اللي جيت بورتون كنتور على حديد مفيس بعيد بعيد ولا البحر بالتحديد غادي
Comment je te présente? Je dis 15 ou je dis...
Mon nom est Aledine et mon AKA c'est 15. Pas Citroën, c'est 15. Tu vois, 15 encore. Là, j'ai 26.
Toi, t'as connu, à cause de la musique, t'as connu la prison?
La chanson de Bolissé et Clef, je l'écris quand j'étais en prison. Et dès que j'ai sorti, je l'ai enregistré, je l'ai lancé sur Internet. Et après, c'est le début du cauchemar, après, tu vois.
C'est le début de la gloire, ouais. Et le début du cauchemar à la fois.
Cauchemar, ouais.
Parce que toute la police est mise contre toi, parce que tu les insultais directement.
Parce que c'est pas que de la justice me cherche, il y a tous les policiers de toute la Tunisie me cherchent. Même s'il n'y a pas de Ben Ali, ils ont la moitié, ils ont les fils de Ben Ali, tu vois. C'est un problème avec tout un système, tu vois.
Et comment c'était la prison ici, d'ailleurs?
On n'est pas en prison au Suède ou en Danemark, tu vois. Une chambre de 60 personnes, tu trouves 200 normal.
Ouais. C'est des grandes salles avec plein de gens dedans.
Ouais, plein de gens, frère. Je te dis, c'est le prison en Tunisie.
Donc on tourne en rond.
Ouais.
Et on réfléchit à des chansons, en attendant de sortir.
Ouais, c'est ça. Abderrahim Zouheri, il est...
Zouheri, oui. Zouheri, il a été ministre de la justice, ouais. Ministre des transports, ministre de l'aménagement du territoire, ministre de l'éducation.
Prison, je te jure, à chaque jour, je l'ai vu. On a parlé un peu, tu vois. Un jour, il a venu à Abdallah Khalil et Abderrahim Zouheri, ils ont dit, en fait, toi et ton ami, pourquoi vous êtes là? Vous êtes des mecs clean et tout. Ouais, on a parlé, je lui ai dit que je suis là à cause d'un loi qui...
Ils ont voté eux.
C'est ça. Tous les poubelles de Ben Ali, ils ont été les gâtés de prison. tu vois.
Mais ils avaient un traitement de faveur.
Bien sûr, ils sont ligatés, ils sont loin de prisonniers.
Maintenant, ils sont revenus sur la scène et maintenant...
Oui, en force aussi.
Et Zouheri, dont tu parlais, que tu as croisé en prison, maintenant, il est candidat à la présidentielle.
Oui, il est là. C'est la chouma, comme on dit, tu vois.
La honte, c'est la honte.
Les périodes des élections, je te jure, il y a au minimum 5 ou 6 partis politiques qui ont m'appelé avec des cachets énormes. Il y a une petite partie de RCDistes, ils ont m'appelé aussi pour...
Les anciens bénalistes ont appelé pour chanter pour eux.
Pour chanter dans des meetings et tout.
Et alors t'as dit oui, bien sûr.
Je l'ai dit non, nique sa mère, mon pote. Je vais chanter avec des partis politiques, avec des gens qui représentent le kizb.
Avec des gens qui représentent le mensonge.
L'hypocrisie, tu vois. C'est pas mon truc.
15, dis-moi, quelle chanson de toi on écoute maintenant?
C'est sûr, on va bouler ses clips. Normal. Comme un bruit qui court. France interne, c'est ça. Cette chanson, c'est vraiment interdit de...
Encore aujourd'hui.
Ouais. ما تبكيش ما كتشونيش البوليس اللي طيحني امه نوكلها الحشيش البوليس هي كلب وانا اقول بيحميني انا اقول بيحميني راح تقول بيحميني البوليس هي كلب البوليس هي كلب البوليس هي كلب البوليس هي كلب.
Qu'est-ce que je donnerais pas pour voir les conversations que peuvent avoir en prison un rappeur et un ancien ministre bénaliste. À ce propos, Zouheri, qui était candidat à la présidentielle, a depuis lâché l'affaire, mais les ex-bénalistes sont encore en embuscade, tout comme les islamistes d'Ennahda d'ailleurs. C'est pourquoi tout peut encore basculer et c'est pourquoi on va suivre les événements de KBB à Crou en Tunisie, mais aussi tous les soubresauts de la Tunisie.
Les enfants ont à l'école des réussites très différentes selon leur milieu d'origine.
Mais ne pensez-vous pas que précisément l'école est là, et c'est son rôle principal, pour compenser les inégalités initiales?
Pierre Bourdieu.
Leur réussite scolaire est d'autant plus forte que le niveau d'instruction de leurs parents est plus élevé.
Réservé à des gens qui ont certains moyens, c'est-à-dire des moyens certains.
Les chiffres d'affaires, je ne vais pas vous en parler, ça ne me parle pas.
Merci de votre attention.
Il va falloir faire attention, respectez cela, d'accord? Je serai très vigilant. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, oui, c'est une bonne question.
Le premier que je vois retirer complètement le casque, on arrête toute la visite. On fait demi-tour et je vous souhaiterai une bonne fin d'après-midi. C'est clair pour vous?
Merci de votre attention.
Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Vous connaissez tous cet adage de Jean de La Fontaine, non ? Qui appliqué à l'école pourrait bien devenir, selon que tu sois d'une famille favorisée ou enfant d'origine populaire, tu accéderas plus ou moins aux études supérieures. Du 9-3 de Tunis, direction maintenant le 9-3, le nôtre, le vrai, la Seine-Saint-Denis. Mais nous irons aussi faire un tour dans les quartiers chics de la capitale et leurs écoles. Notre chère école républicaine de Condorcet et de Jules Ferry en a pris un sacré coup depuis que le sociologue Pierre Bourdieu est passé par là, c'était dans les années 70. La reproduction des inégalités sociales par l'école, voilà ce que Pierre Bourdieu a montré. De là à penser que les entreprises viendraient un jour faire classe, Bourdieu n'aurait pas osé l'imaginer. Que se passe-t-il quand des multinationales comme Total, Coca-Cola, Casino ou la BNP viennent professer leurs vertus à l'école? Si vous avez un enfant au collège ou au lycée, peut-être était-il l'un des 200 000 élèves à participer à la 15e édition de la semaine École-Entreprise. Quand l'Éducation nationale et le MEDEF se rencontrent, mon enfant, seras-tu cadre ou ouvrier?
La grande nouveauté dont témoignent ces opérations idéologiques du MEDEF, c'est que l'école a changé de fonction.
Je crois absolument que
Pierre Gattaz,
l'éducation nationale se rapproche du monde de l'économie et de l'entreprise.
On observe une substitution de la publique par l'entreprise.
Alors bougez votre cul!
«
lycée Louis-le-Grand, dans le 5e arrondissement de Paris. Et ce matin a lieu dans ce prestigieux établissement parisien une conférence dans le cadre de la semaine École-Entreprise co-organisée en partenariat par le MEDEF, l'organisation patronale, et l'Éducation nationale pour rapprocher l'école de l'entreprise. Et l'invité, ce matin, n'est autre que le PDG du groupe de luxe Hermès.
Je viens pour le séminaire dans le cadre de la semaine école-entreprise.
On attend là, du coup.
Dans l'entrée somptueuse de cet établissement, Louis-le-Grand, lycée de prestige, le petit jardin intérieur avec les grandes colonnes, le sol en marbre et les grandes arcades.
Il y a une dame qui est arrivée, mais je ne sais pas.
Vous savez pas dans quelle salle ça passe ?
Salle de conférence. Voilà les premiers élèves qui entrent. Là, c'est les lycées, c'est ça, du quartier un petit peu montagne.
Bah, quartier au sens large, parce qu'on a des gens de Janson qui vont arriver.
Ouais. Hein. C'est les bons lycées, quoi. C'est l'élite.
Et c'est vrai qu'on peut dire que Louis-le-Grand, Henri IV, font partie des bons lycées.
Montagne,
Montagne. Montagne aussi. Bah, dites surtout pas que Louis-le-Grand est le meilleur.
Bon, la salle se remplit. Je vous laisse vous présenter.
Michel Bouchot, proviseur du lycée Louis-le-Grand et donc lycée d'accueil de la semaine école entreprise.
Là, en l'occurrence, c'est le PDG d'Hermès qui vient parler ce matin devant les élèves. Le MEDEF, par exemple, qui co-organise avec l'Éducation nationale cet événement, dit justement qu'il faut développer, impulser l'esprit d'entreprise.
Qui mieux que l'entreprise peut l'énoncer ? Et c'est un peu indispensable de montrer aux élèves des lycées, le contact avec l'entreprise, nous sommes très favorables.
J'allais vous dire également, parce que moi je m'intéresse à cette semaine école-entreprise, cet après-midi je me rends dans un lycée un petit peu moins prestigieux, avec des filières techniques qui eux vont voir directement des ateliers de production chez PSA ou des réseaux ERDF.
Oui, bah c'est différent, mais les élèves de Louis-le-Grand, 100% d'entre eux feront au moins un master. Donc,
il faut les confronter à une réalité économique qui est celle d'une grande entreprise, etc.
Bien sûr, à l'évidence. Hermès, c'est une marque mondiale. Nous avons le patron de Total, malheureusement décédé depuis, qui est
Christophe de
Margerie, qui est venu dans ce lycée.
On pourrait résumer par la formule de grands patrons pour de grands élèves.
Voilà, pourquoi pas. C'est une belle formule, effectivement. Vous êtes ici dans un des lycées, si ce n'est le lycée qui obtient les meilleurs résultats en classe préparatoire, au baccalauréat, évidemment. Ce que l'on fait de mieux en matière d'excellence.
L'excellence, tout comme le luxe. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le PDG d'Hermès. C'est aussi l'excellence dans le luxe.
Voilà,
on retrouve ce mot-là.
Et je trouve qu'il est sain de montrer qu'accéder à l'excellence est possible. Ce n'est pas réservé aux autres. C'est la marque et la tradition de ce lycée. C'est aussi son honneur.
À l'origine, c'est une invitation au rêve. Voyage d'Hermès.
Et en effet, je vais vous parler d'Hermès, dont je suis directeur général. Alors, qu'est-ce que c'est que Hermès aujourd'hui ? Eh bien, une entreprise qui se caractérise par une très forte dynamique. Le résultat chiffré, ben, le voilà, sur les 20 dernières années. Vous voyez que la courbe est assez sympathique, pratiquement 800 millions de profits. Nous sommes sur une croissance de l'ordre de 11%. Voilà, les valeurs de cette entreprise, la philosophie de cette entreprise autour de la qualité, autour de la créativité, restent absolument la source du succès de cette maison. Merci de votre attention.
Merci.
Oui.
Quel est le conseil que vous donneriez à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ?
D'abord, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Donc l'entrepreneuriat... Si vous y croyez, si vous avez envie d'être votre propre patron, allez-y. À la fin, la récompense est formidable. Oui, monsieur ?
Est-ce qu'il est toujours possible pour une marque comme Hermès d'innover dans le domaine du luxe ?
Alors, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'ai un iPad. Mais mon iPad, il est dans une couverture Hermès. Qui coûte plus cher que l'iPad. Enfin, c'est pas cher, c'est coûteux, vous avez compris. Merci de votre attention.
Vous avez partagé votre rêve et donné à d'autres l'envie de s'évader.
Bonjour, vous êtes de quel lycée ?
Du lycée Montaigne.
qui se situe il y a pas très loin, dans le 6e arrondissement.
À côté du jardin Luxembourg.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention du PDG d'Hermès?
Très instructive et très motivante.
Motivante pour travailler dans le domaine du luxe, vous dites?
Dans le domaine du luxe, pour réussir en prépa, on a des concours à passer et on passera en école de commerce. Et après l'école de commerce, c'est vraiment oui, un domaine qui pourrait nous intéresser.
Parce que là, c'est la semaine école-entreprise, par exemple. Vous voulez être entrepreneur?
Peut-être pas entrepreneur, mais plutôt dans le domaine de la finance, donc travailler pour des entreprises.
La finance. Oui. Et vous?
C'est pareil que lui. Ouais.
En finance?
Ouais.
Plutôt en bourse, oui, jouer en bourse principalement.
Qu'est-ce que font vos parents?
Il a été directeur général de Guinot et maintenant il est professeur à l'ESSEC.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au lycée Montaigne aussi?
Oui, je suis au lycée Montaigne en filière économique pour intégrer une grande école de commerce. Avant j'étais au lycée Henri IV juste à côté, du coup je connais un peu le quartier. Et puis...
Ah, vous avez fait les bonnes écoles, on va dire. Montaigne,
voilà.
Henri IV.
Voilà.
Et là aujourd'hui, le thème du jour, ça vous inspire quoi, Hermès?
C'est le rayonnement de la culture française et de l'excellence qui se reproduit un peu partout dans le monde. Je pense que c'est important d'assister à une représentation comme ça.
Le luxe.
Le luxe.
Est-ce que vous auriez un petit moment à m'accorder?
Si vous voulez.
Vous êtes tous à Montaigne ici, en contrat? Vous savez que c'est le MEDEF, l'organisation patronale, qui organise la semaine école-entreprise, vous savez ça?
Oui.
Oui, dites oui. Le slogan, c'est « Les entrepreneurs de demain sont les élèves d'aujourd'hui ». Vous vous sentez entrepreneur?
Tout le monde est un peu près, enfin, est un peu, je pense, au fond de soi, mais...
Parce que vous savez, c'est ce que MEDEF dit, la France manque d'esprit d'entreprise, manque d'entrepreneurs. Alors, si Pierre Gattaz vous voit, vous n'êtes pas très motivé pour entreprendre, justement.
Ouais. En même temps, c'est
trop de concurrence.
Vous avez peur?
Ouais. Il y a beaucoup de risques, enfin, c'est vraiment de gros risques à prendre, et surtout avec la situation économique en France, hein, c'est peut-être pas la meilleure... L'idée de se lancer comme ça du jour au lendemain, enfin oui, voilà.
Il ne faut pas que Pierre Gattaz entende ça s'il nous écoute. Mais vous avez quand même envie d'entreprendre, potentiellement.
Rassurez
le MEDEF.
C'est un peu un rêve. Hein. Tout le monde a envie de créer quelque chose et d'être son propre patron.
Ne vous inquiétez pas.
Qui, Pierre Gattaz?
Oui, ça, Pierre Gattaz. Ne vous inquiétez pas. On va entreprendre dans quelques années.
J'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise.
Toujours au lycée Louis-le-Grand, et on va aller voir ceux qui ont rendu possible la présence du PDG d'Hermès aujourd'hui dans ce prestigieux établissement. Ce sont les organisateurs de cette semaine école-entreprise, des salariés de l'éducation nationale chargés de mettre en lien l'école et les grandes entreprises.
Jean-Charles de Becker, je suis délégué académique aux enseignements techniques, donc conseiller du recteur de Paris. L'une de mes missions, c'est de piloter la cellule école-entreprise du rectorat.
Et vous, Josette Benhamou?
Je suis chargée de mission relations école-entreprise.
École-entreprise, ce n'est pas des termes qu'on entend souvent apposer en France. C'est le MEDEF qui est à l'origine de cette initiative, qui a sollicité en partenariat l'éducation nationale il y a une dizaine d'années, c'est bien ça?
Oui, c'est vrai que tout au long de l'année... Nous menons des actions avec nos partenaires dans les lycées, en direction des élèves, en direction des enseignants, des personnels d'encadrement.
Pour tout le monde, même les enseignants, en fait, ont droit à leur petite immersion en entreprise. J'ai vu aussi qu'il y avait des grands noms de l'entreprise. Il y a Total, Schneider Electric, il y a également EDF, oui. Casino, Flunch, oui. Des choses comme ça. Accor, PSA, la Banque de France...
Et il y a plusieurs objectifs. C'est déjà de faire connaître la réalité du monde économique, la réalité des entreprises, parfois un petit peu biaisée par l'actualité, sans doute.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler, par exemple, des méfaits de la mondialisation, sans voir que des entreprises comme celle d'aujourd'hui, par exemple, profitent de la mondialisation et sont un des fleurons de l'industrie française.
Il faut inculquer ça aussi aux jeunes.
Je pense.
Déconstruire l'image qu'ils en ont à la télé.
Voilà. De ce point de vue-là, c'est vrai que le MEDEF a tout à fait raison. Maintenant, tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. En revanche, tout le monde doit avoir l'esprit d'entreprendre. Et c'est toujours important d'avoir...
L'esprit d'entreprise.
Voilà, l'esprit d'entreprise.
Manuel Valls, notre Premier ministre, a dit à l'université du MEDEF, j'aime l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le MEDEF qui dit j'aime l'école.
Oui, c'est vrai qu'on entend de plus en plus ce discours qui me paraît... très intéressante.
Puis la phrase que vous citiez, c'est aussi la preuve que le lien entre ces deux milieux est absolument indispensable. Disons que nous parlons le même langage, les uns et les autres, sur cette volonté de dédiaboliser l'entreprise.
Je me demandais, parce que j'ai vu qu'il y avait en ce moment le projet de parcours individuel dans l'éducation nationale pour l'orientation des élèves. Et j'ai lu dans la presse que c'est Michel Pébrot, l'ex-PDG de BNP Paribas, président d'honneur maintenant de BNP Paribas, qui est à la tête de ce rapport. Il a déclaré « Il faut que les entreprises interviennent dès le primaire afin que les élèves se familiarisent de manière précoce avec le monde économique. » Ça, c'est ce qu'il préconise. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense qu'effectivement, plutôt, on connaîtra... En fait, c'est la connaissance du monde extérieur, donc il n'y a pas de raison...
Dès le primaire, ça fait un petit peu tôt, non pour...
Je ne vois pas pourquoi... On ne commencerait pas dès le primaire à connaître l'entreprise, le milieu économique. Ça me paraît aussi indispensable que de connaître l'histoire, la géographie.
Dès le primaire.
Oui.
Pourquoi pas ? J'allais vous demander aussi un petit mot sur la matinée d'aujourd'hui. Pourquoi ici Louis Le Grand et pourquoi justement la marque Hermès ?
Je crois que c'est quand même un bel exemple de l'excellence qui a une renommée internationale. Et puis alors les étudiants qui sont ici, qui sont des étudiants un petit peu particuliers, mais ça les fait rêver, ça leur peut leur donner des idées, y compris de voir que l'excellence française existe, mais ça je pense qu'ils le savaient déjà.
Ça peut être en ZEP par exemple, le patron d'Hermès.
Absolument, ça peut être dans des lycées professionnels.
Moi je vous dis ça parce que c'est vrai que quand j'ai vu le programme, le PDG d'Hermès à Louis le Grand, et de l'autre côté des classes techniques, ou des SECPA, des classes avec des élèves en difficulté qui visitent des hypermarchés casinos, ou alors des visites des usines PSA. On n'invite pas le PDG d'Hermès.
Oui, mais encore une fois, même à Louis-le-Grand ou à Janson de Sailly, on emmène périodiquement des classes...
Dans les hypermarchés casinos ?
Y compris dans les hypermarchés, bien sûr, bien entendu.
J'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise.
Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On va entreprendre dans quelques années.
Alors bougez votre cul !
Vous entendez ? Entreprendre, faire preuve d'initiative, d'innovation. Voilà. Et ce ne sont pas les mots de patrons que l'on vient d'entendre à l'instant, mais bien ceux de représentants de l'éducation nationale. Pas facile, facile tout de même, il faut l'avouer. Vous voyez déjà certains élèves traînent la patte, l'œil mi-clos, assis au fond de la classe. Et pourtant, l'éducation nationale a déployé beaucoup d'efforts ces 10 dernières années. Tout un tas de dispositifs sur les recommandations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de l'OCDE et de l'Union européenne pour moderniser notre école. Kits pédagogiques fournis par EDF et Total, des cadres d'entreprise qui interviennent régulièrement dans les classes quand ce n'est pas directement les multinationales de la banque, du luxe ou de l'assurance qui financent l'école à travers leur fondation. Par exemple, 4 millions d'euros, c'est ce que verse l'entreprise Total pour l'aménagement des rythmes scolaires de vos enfants. Et c'est à ce projet de refondation, qu'il nomme Nouvelle École Entrepreneuriale, que s'est intéressé le sociologue Christian Laval.
On observe une substitution de la République par l'entreprise. Et je crois que là, on aboutit à ce que moi j'appelle un nouvel âge de l'école. Un nouvel âge de l'école qui ne se définit plus au fond comme un lieu de formation démocratique de futurs citoyens, mais de futurs entrepreneurs. Et avec la plus grande complicité de ceux qui ont en charge l'école. Et puis, au fond, c'est une espèce de manière aussi de faire adhérer les futurs salariés au but de l'entreprise, de les amener, dès avant leur insertion dans le mode de l'emploi, à un mode, je dirais, d'aliénation ou d'auto-aliénation. Et je crois que la grande nouveauté dont témoignent ces opérations idéologiques du MEDEF, c'est que l'école a changé de fonction.
Alors j'allais vous dire, Christian Laval, ceci est assez révélateur de notre époque. C'est-à-dire qu'on instille, dès le plus jeune âge, l'amour de l'entreprise, mais aussi des notions d'individus rentables, compétitifs. C'est des valeurs modernes.
Voilà, l'école aujourd'hui est en train de fabriquer très délibérément, très volontairement, des êtres qui n'ont comme fonction dans la société que d'accumuler un petit capital individuel. Et je pense qu'il y a là, je dirais, un danger qui dépasse de loin l'avenir de l'école, qui va toucher l'avenir de la société elle-même.
Alors, il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a frappé dans cette semaine école-entreprise, c'est que les enseignants, notamment, sont conviés à participer. Non seulement à participer, par exemple, au sein des établissements, mais aussi, il y a une initiative qui s'appelle « Les boss invitent les profs ».
Ça témoigne du fait qu'on n'a pas affaire du tout à des expériences isolées, ponctuelles, mais à une véritable réflexion stratégique sur la manière de transformer l'esprit de l'école. Cette opération de propagande. Et là, pour essayer, comme ils disent, comme ses patrons disent, pour réconcilier les Français avec l'entreprise.
Stratégie de lobbying.
Voilà, ils défendent leurs intérêts, point. Il faut bien voir que l'appauvrissement de l'État favorise ce type de logique de pénétration du monde marchand dans l'espace scolaire. Et un peu partout, au fond, on observe une espèce de polarisation dans tout le système d'enseignement entre des lieux d'excellence où l'on forme l'élite et des endroits où on formera, je dirais, le tout venant, ceux qui pourront plus ou moins se débrouiller dans une société de concurrence généralisée. Et des élèves seront destinés à devenir ouvriers, quand d'autres sont destinés à être des managers d'entreprises de luxe ou autres. C'est sans doute peut-être ce qu'il y a de plus grave dans les effets que ce modèle néolibéral est en train de produire.
Réservé à des gens qui ont certains moyens, pour ne pas dire des moyens certains.
Oui, c'est un peu vrai, ça.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui?
Notre secteur va bien.
J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Il est sain de montrer que accéder à l'excellence est possible. C'est la marque et la tradition de ce lycée, c'est aussi son honneur.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui?
Merci de votre attention.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élite toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Porte de Saint-Ouen.
Changement de décor. Nous voilà dans le 93 à Saint-Ouen, aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis. Et dans le cadre de cette semaine école-entreprise, des lycéens d'un lycée professionnel de La Courneuve, dans le 93, le lycée Denis Papin, vont visiter les chaînes de l'entreprise automobile Peugeot. PSA de Saint-Ouen. Zone industrielle, usine PSA, site de Saint-Ouen.
Vous êtes journaliste?
Je savais.
Vas-y, file.
Yeah. Ouais. Yeah.
Attendez, écoutez, qu'est-ce que je vous ai dit?
Dans quelle classe?
Bac pro, technicien d'usinage. Moi, je m'appelle Mohamed.
Et là, vous êtes une dizaine, vous êtes 10, c'est ça? Vous voulez tous travailler dans l'automobile, là?
Moi, je sais pas ce que je vais faire plus tard. Je crois que je vais changer de filière.
Les bonnets et les casquettes, s'il vous plaît.
Les capuches.
Là, il y a des engins, des chariots élévateurs qui chargent des camions, des semi-remorques. Et notre guide, membre du staff de PSA, qui mène la danse de manière assez stricte. On est dans des grands hangars. Très ancien, c'est un site historique de PSA. Ça nous change un petit peu de la salle de conférence et de l'amphithéâtre ce matin. Les lunettes?
Ouais. Bah, il faut que vous les mettiez. Obligatoire. Donc on l'attend.
Je me fais engueuler, moi. Parce que j'avais pas mis mes lunettes.
Donc on va y aller, on rentre dans le secteur ferrage. C'est parti.
Rapprochez-vous. Pour des raisons de sécurité, vous allez vous mettre le long de la ligne. Venez, venez, avancez, avancez. Les mains dans les poches, à éviter s'il vous plaît.
On y va, on va passer par là. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus manuel. La personne récupère des éléments, les pose sur un outil, appuie sur deux boutons pour effectuer la soudure. Une fois que c'est fait, il récupère sa pièce manuellement et il la pose dans une boîte. Donc bien sûr, vous avez une cadence horaire à tenir. S'il vous plaît, le premier que je dois retirer complètement le casque, on arrête toute la visite. On fait demi-tour et je vous souhaiterai une bonne fin d'après-midi. C'est clair pour vous ?
Quel est votre prénom ?
Amine.
Vous êtes au lycée ?
Denis Papin, bac pro, usinage. J'étais déjà confronté au monde professionnel, mais en usinage, c'est la première fois que je viens et que je regarde une grande entreprise. J'ai toujours regardé dans les télévisions pour voir, mais jamais de près.
Vous voulez faire quoi ?
Je sais pas encore. Pour le moment, je suis dans cette filière et ça commence à me plaire. Je prends mon temps, je réfléchis et je regarde. Ce qui me faisait rêver avant, c'était la pâtisserie.
Vous vivez à la Courneuve ? Vous vivez
Non, à Bobigny.
Dans quel quartier ?
Paul-Éluard.
Ce matin, j'étais à Paris, au lycée Louis-le-Grand, vous connaissez ?
J'ai déjà entendu le nom, mais...
C'est un grand lycée parisien qui recevait le PDG, le patron d'Hermès. Vous connaissez Hermès ?
Ouais, je connais, c'est la marque d'habits, c'est ça. C'est vrai qu'on voudrait qu'un grand patron comme lui vienne chez nous, mais je vois pas vraiment ce que ça change. Un patron, un ouvrier. Chez nous aussi, la productique, les machines coûtent très très cher, encore plus cher que les vêtements.
Plus cher qu'un sac Hermès.
Ouais, ça c'est beaucoup plus cher.
Dans la semaine, l'école entreprise à laquelle vous participez, le slogan, c'est « Les futurs entrepreneurs sont les étudiants d'aujourd'hui ». Vous, vous êtes un futur entrepreneur ?
Ouais, j'aimerais bien avoir ma propre entreprise, c'est vrai que ce serait bien. Être son propre patron, ce serait la chose qui m'arriverait le mieux pour moi. Il y a beaucoup de gens chez moi qui ont envie de travailler, mais le problème, c'est l'arrondissement, le 93. Quand on dit 90, on dit banlieusard, racaille directement des fois. On veut avoir notre entreprise, on veut y arriver. On veut y arriver.
Vous connaissez le MEDEF ?
Non, je ne vois pas trop.
C'est l'association patronale en France. Et justement, on peut passer peut-être le message à Pierre Gattaz, qui est le président du MEDEF, donc le patron des patrons, que les jeunes de 93 veulent eux aussi être entrepreneurs.
Oui. Bah oui, moi j'ai envie d'être entrepreneur. Beaucoup de gens qui sont avec moi veulent devenir entrepreneurs. Ils veulent travailler, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir une voiture, vivre normalement, avec un travail normal. Mais bon, on ne dit pas, c'est surtout dans le 93.
Donc bien sûr, vous avez une cadence horaire à tenir. Hein.
Socialement, autant les ouvriers que les jeunes qui sont venus visiter sont plutôt issus de l'immigration, d'origine maghrébine ou d'Afrique noire. Là, les ouvriers, par exemple, à la chaîne, c'est pareil. Reproduction des inégalités à l'école entre banlieue et Paris-Centre et reproduction des inégalités quand l'entreprise met son nez dans l'école également. Atelier PSA contre entreprise de luxe Hermès.
Tout le monde est là ?
Voilà, on apprend aussi ici à l'usine les règles de sécurité, d'obéissance, car les jeunes de banlieue doivent rentrer dans le rang.
Et en 1923, André Citroën a racheté l'usine. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on en est très fiers, c'est une usine historique. Donc ici, vous attendez pas à voir des voitures. Vous verrez que des petites pièces, des sous-ensembles qui servent à habiller la voiture, d'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Bon, je vais commencer à vous équiper. Voilà. Mets-le là, comme ça je vais...
Là, c'est la séance équipement, chaussures de sécurité et casque.
41, 42,
oui. Les chaussures, pour les rendre après. Hein. C'est parti pas au courant. Hein.
Thierry Borne, ingénieur pour l'école du rectorat de Créteil.
C'est là que vous êtes chargé de faire le lien entre l'école et l'entreprise.
Les entreprises. Le but de la journée, c'est qu'ils se voient la réalité de l'entreprise, de l'usine. Par rapport à ce qu'ils apprennent, ils voient la réalité du terrain.
J'allais vous dire, pour les élèves de filière technique, professionnelle, on les envoie plutôt dans, on va dire, des usines, des choses très concrètes, c'est bien
oui,
ça ?
C'est ça, des choses concrètes. Qu'ils voient bien comment ça se passe, qu'ils aillent voir, visiter les usines.
Ce matin, j'étais au lycée Louis-le-Grand à Paris, oui. Où là, c'était le patron d'Hermès qui venait parler aux lycéens des collèges et des lycées prestigieux de la capitale.
Oui, oui. C'est différent. Non, là, on va sur le terrain. Voilà, c'est important pour les jeunes. Ouais, les jeunes de banlieue qui voient bien la réalité.
Alors, je vous écoute, est-ce que vous avez des questions ?
Ouais, moi, j'en ai une. Oui. Est-ce que vous prenez les stagiaires ?
Oui, il suffit de déposer vos CV, vous renseigner, vous rapprocher du service com qui peut vous aider.
Pour travailler, il faut avoir obligatoirement le bac ou...
Non, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme, mais il est conseillé d'en avoir un, tout simplement, on va être franc, pour le salaire. Quand tu commences sans rien, sans aucun diplôme, tu es payé au SMIC. Alors au début, quand on est jeune, on se dit quand on a 1000 euros, c'est génial. Mais quand on vieillit et qu'on a des enfants, ça devient un peu plus dur.
Comment il s'appelle le grand patron de Citroën ?
On dit déjà le PDG.
Le PDG.
Voilà, et c'est pas Citroën, c'est PSA. C'est Carlos Tavares.
C'est un quoi ?
Tu veux dire quelle nationalité? Carlos Tavares, ça te fait penser à quoi?
Mexicain. Espagne.
Espagnol.
Espagnol. Une autre question? Oui.
En fait, vu que vous possédez des machines robotiques, ça veut dire que vous n'avez plus besoin des employés?
Non, ça c'est une idée reçue. Au contraire, ça a créé de nouveaux emplois, ça nous a permis de moins nous abîmer. On fabriquait aussi plus vite, parce qu'un robot tombe pas malade.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois? Parce que ces temps-ci, on parle beaucoup de personnes qui perdent leur emploi, surtout les grandes usines comme ça, Renault, Citroën, Peugeot, qui n'arrêtent pas de vendre.
On va dire qu'on a fait ce qu'on appelle de la restructuration. On a aidé des gens, entre guillemets, qui étaient plutôt âgés à partir, plus facilement. On est obligé, entre guillemets, de s'adapter. Mais ça va plutôt bien, puisque PSA est quand même une grande boîte. Après, si tu es intéressé, le jour où on recrute des intérimaires, tu es le bienvenu. Et je t'accueillerai avec grand plaisir.
Intéressé?
Ouais. Je vais noter, je vais noter.
C'est bon pour vous? Ok, bah je vais vous souhaiter un bon après-midi.
Merci.
Et merci d'être venu.
Je vous
remercie. Ça vous sera utile.
Direction la sortie. Bah, Amine, toi t'as posé une question sur le chômage. Oui. C'est ça, sur les pertes d'emploi.
Oui. Parce qu'en fait, ces temps-ci, je regarde beaucoup BFM TV le matin et je vois des usines qui n'arrêtent pas de fermer, surtout Citroën ou Peugeot, je sais plus qui.
Ça te fait peur?
Ouais, ça me fait peur, ça m'inquiète quand même.
C'est qui m'a demandé l'adresse Facebook?
Moi.
Tout le monde veut sa petite carte avec l'adresse Facebook donnée par la responsable de la communication de l'entreprise pour, qui sait, futur stage ou des emplois, c'est ça? Vous allez envoyer un petit message pour candidater?
Ouais.
On est sorti.
C'est pas une question d'origine pour moi. C'est pas vraiment je suis 93. C'est surtout en fait les usines qui me font peur, qui sont en train de fermer, la crise. Ils arrêtent pas de dire le chômage, les dettes. Ça commence à rendre assez fou quand même.
Et
quand
les gens fous.
Ouais.
Et est-ce que vous avez l'impression que l'école a été pour vous un ascenseur social? Souvent on dit ça. L'école, ça sert d'ascenseur social pour sortir, s'extraire de son milieu social d'origine.
Non. Parce que dans l'école où je suis, il y a beaucoup de personnes de la même origine que moi, la plupart africains.
Et d'origine sociale modeste?
Ouais, modeste. Ouais, très très modeste, des fois.
Et qu'est-ce que tu penses du fait que lors de cette semaine école-entreprise, les jeunes des beaux quartiers parisiens sont conviés à assister à une conférence avec le patron d'Hermès, d'une marque de luxe, et vous, dans le 93, on vous emmène aux ateliers d'une usine PSA?
Moi je dis, ils ont de la chance, mais bon, c'est pas ça qu'ils vont faire, qu'ils vont travailler avec lui. Nous, là, on a une possibilité de travailler, ils nous l'ont dit eux-mêmes. Alors que lui, il vient, oui, le patron d'Hermès, il vient parce que c'est une école riche, plutôt connue. Mais ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est pas vraiment que Hermès vienne et nous fasse sa marque, sa pub. Moi, ce que je veux voir, c'est des patrons, des grandes entreprises qui viennent, qui font, ne vous inquiétez pas, il y a du travail, venez avec nous, on cherche.
Ça, c'est ce que vous avez envie d'entendre?
Ouais, voilà, pour les usines, les entreprises, partout.
Mais ne pensez-vous pas que précisément l'école est là, et c'est son rôle principal, pour compenser les inégalités initiales?
Les enfants ont à l'école des réussites très différentes selon leur milieu d'origine.
Disposés à marcher en bande et à connaître la fouille, la bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposés à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Disposés à être tutoyés par toute institution. Institution méprise et déplore ton élocution. Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge? Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abribus, seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes, on la même langue, le même sang, mais troublé un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Tu sais que les riches sont pas plus libres que toi, eux aussi sont aliénés par leurs mots, leurs codes, leurs choix. Sauf que leur argot est bien vu, il est même courtisé. On dit du tien qu'il est bad, du leur qu'il est souligné. Leur style et leur mode sont juste plus prisés. En plus tu grandis et l'argot du préau n'est plus le consensus. De poids, de mesure, en fonction de ta voix, ton allure, ton aisance du langage, dans la guerre du langage. Ce monde peut cerner d'où tu viens et j'en ai pas dit plus. Humain, tu restes emprisonné par tes habitudes. Le quartier a ses règles, ses lois, son langage, son argot. Tu sais de quoi je parle, surtout quand t'es ado. Rempli de vivacité, tu sors du bahut, du chahut. Contaminé par les expressions tordues de la rue. T'as vu, tu ramènes à l'école une manière de parler. Tu te la racontes, la manière de manier la langue et de tailler. Tes parents se sont dit, l'école change les nantis. Mais leur enfant grandit, veut parler comme un bandit. C'est une règle sociale, on s'adapte à notre monde. L'accent, le verbe, la phrase te reflète, te ressemble. T'as un arrière-goût du quartier, tu restes son ombre, c'est chaud. Les mots qui te servent à parler reflètent l'écho des autres. T'as pas encore conscience que le langage est ton passeport. Plus tard faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort. Ton horizon d'enfant construit ta personnalité. Tes manières, ton argot te façonne comme personne n'a idée. Ça jouera sur le mariage, sur le choix du job, sur ton décor, sur le nom des gosses, sur le choix de l'école, de la musique que t'écoutes, de celle que tu comprends pas, des malheureux que tu écoutes et de ceux que tu n'entends pas. Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours, l'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'écroule, tu auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille. Donc sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante qui s'habille de l'accent des capitales scintillantes. En vrai, ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés, mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais j'oublie un détail, genre d'accent avec lequel je finis mes phrases. Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus humain. Je reste emprisonné par mes habitus.
Et si vous voulez poursuivre la réflexion, je vous renvoie aux ouvrages de Christian Laval, aux éditions de La Découverte. L'école n'est pas une entreprise, le néolibéralisme à l'assaut de l'enseignement public, mais aussi la nouvelle école capitaliste. Et pourquoi pas ne pas en profiter pour relire un petit peu de Pierre Bourdieu, Les Héritiers, paru en 1964, qui n'a pas pris une seule ride.
Radio, hit yourself. Remixez-le, vous-le.
Pas de troisième reportage cette semaine dans Comme un bruit qui court. Pas parce qu'on est paresseux ni fainéant, mais parce qu'on a décidé de vous laisser la place à vous, aux auditeurs, mixeurs, bidouilleurs de son et de sens. Radio It Yourself, je vous le rappelle, c'est mixez-le vous-le, remixez-le vous-même. Les sons de nos reportages, nettoyés, préparés, ajustés, mis en ligne, à vous de les reprendre, à vous de les remixer et de nous les envoyer. Petite démonstration, toujours en Tunisie, avec Guillaume Istas.
Martyr de la révolution.
Mort sous les balles.
Mort sous les balles.
319 familles.
Mort sous les
319 familles.
C'est votre fils?
Oui, c'est mon fils.
Marouin Jam. Quel âge il avait?
19 ans. Il s'est pris une balle et il est mort. 19 ans. Est parti, c'est déjà pas mal. Attends, dégage. Et maintenant, les suivants aussi, on leur dira dégage. Dégage, dégage. Qui s'avère mauvais, dégage. Dégage, dégage. Dégage.
Et nada, pour la liberté, pour les affaires. Et nada.
Dégage, dégage.
Du temps de Ben Ali, on vivait mieux.
Dégage. On ne trouve même plus de quoi manger.
Du temps de Ben Ali.
Je n'aime pas Ben Ali.
Dégage.
Et nada. Pour la liberté. Et nada.
Dégage.
À l'époque, on ne peut pas parler.
Dégage, dégage, dégage.
Vers une économie émergente et un pays stable.
Allez-y, c'est à vous, à vos mixettes et à vos logiciels de montage. Faites des mixages avec les nouveaux sons en ligne sur le site de France Inter, Comme un bruit qui court. Des sons enregistrés et sélectionnés par nos soins, ramenés de Tunisie, du Mexique ou de Calais. « On s'est posé tout à l'heure avec Geller la question de la reproduction des élites. Eh bien, la semaine prochaine, nous irons rencontrer la compagnie Tamer en Tong, qui utilise le théâtre pour enrayer, autant que possible, la machine à reproduire les inégalités sociales en proposant des ateliers de théâtre dans les écoles des quartiers populaires.
Une petite mise en bouche, une petite aguiche.
26 millions !
Prince Jean !
Prince Jean ! Belle recette ! C'est bon de prendre aux pauvres pour donner aux riches.
Ouais, mais tout content, d'accord. Tu sais ce qu'il faisait Robin des Bois ? Il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Bah, le prince Jean, lui, il prend aux pauvres pour donner aux riches, d'accord. C'est bon de prendre aux pauvres pour donner aux riches.
Comme un bruit qui court, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assisté de Karen Dehay. À la technique aujourd'hui, Enzo Labori et David Federman.
Laissez-nous vos commentaires et vos remixes sur la page web de l'émission. Et juste après le flash, vous retrouverez Colin et Mauduit aujourd'hui avec Marlon Brando.